Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 7 août 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc un lundi matin et après-midi difficile sur la bourse. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention dans la dernière semaine?
Donc, mercredi dernier, on vous annonçait que la Réserve fédérale était fort probablement pour ne pas baisser les taux. C'est effectivement ce qui est arrivé. On se tape dans le dos, on a eu raison. C'était quand même assez largement attendu. Ceci dit, l'emploi, donc le vendredi, les chiffres d'emploi aux États-Unis sont sortis. L'emploi était beaucoup plus faible que prévu. Donc, les nouvelles créations d'emplois, beaucoup plus faibles que prévu. Et on est passé d'un sentiment où le marché se disait « bon, mais parfait, la Réserve fédérale va tranquillement pouvoir baisser les taux parce que l'inflation diminue, mais l'économie demeure forte, donc on va avoir ce qu'on appelle un atterrissage en douceur ». Et là, le nouveau sentiment, c'est « oh, la Réserve fédérale est en arrière de la courbe, donc ils sont en retard, ils ont trop attendu, l'économie est en train de se détériorer plus rapidement que prévu ». Et là, le marché est comme tombé en mode de panique. Donc, l'impact a été assez brutal avec des baisses importantes. Entre autres, lundi, le marché canadien était fermé, mais le marché américain, là, suite au chiffre d'emploi, vendredi en baisse, lundi, une baisse très, très importante. Puis là, il y avait une combinaison de facteurs qui s'est produit. Il y a trois facteurs principaux qui ont un peu entraîné cette boule de neige-là de lundi. C'est-à-dire, d'une part, on est dans la saison des résultats financiers, les bénéfices des entreprises, surtout les grandes entreprises de technologie. Ils ont été bons, mais pas aussi élevés que les attentes. Donc, on avait vraiment des attentes très, très élevées. Donc, ça l'a déçu peut-être un petit peu. On a eu ce chiffre d'emploi-là qui était décevant. Et puis, on a ce qu'on appelle en anglais le yen carry trade. Je n'ai pas de traduction. Donc, c'est le yen carry trade, c'est essentiellement les fonds spéculatifs, les hedge funds aux États-Unis, vont emprunter en yen, alors qu'on était dans une banque du Japon qui n'avait pas monté ses taux d'intérêt pendant que tout le reste montait. Donc, les investisseurs empruntaient en yens pour venir investir dans des titres, par exemple, de technologie. Là, la Banque du Japon s'est virée de bord assez rapidement, puis on dit « Hey, on monte les taux ». Donc, ce que ça a eu comme impact, bien, le yen, qui perdait de la valeur depuis 2 ans, s'est mis à remonter. Donc là, si moi, j'ai emprunté en yens, bien là, ma dette est en train d'augmenter parce que la devise, elle augmente. Mon taux d'intérêt sur ma dette est en train d'augmenter. Puis là, du côté américain, j'ai des titres qui sont en train de baisser. Donc là, je ne suis pas du bon côté de la trade. Donc, dans la position des hedge funds, bien, ils se sont mis à liquider, à renverser cette position-là. Donc, la combinaison de ces trois facteurs-là, ça a donné lundi. Et là, lundi, à un moment donné, on parlait presque de 87, là, t'sais, du crash de 87. Ce que les stratèges ont mentionné, par contre, MRB Research, là, qui est une firme externe d'analyse macroéconomique, qui est souvent, là, sont toujours dans le gris, si on veut. Ils ne sont jamais dans les extrêmes. Donc, on l'apprécie pour ça. C'est prématuré là, de parler de récession puis de parler de ralentissement profond. Les événements, bien, ce sont essentiellement une correction dans un marché haussier traditionnel. Puis, il faut se rappeler que la correction moyenne dans une année civile, c'est de 15 %. Donc, de voir le Nasdaq qui est en baisse d'une dizaine de pourcents là, depuis une semaine, ce n'est pas anormal, ça fait partie du processus. Alors, longue explication de 4 minutes pour vous dire que cette semaine, les marchés boursiers sont en baisse d'environ 3,7 au Canada, 4,6 sur le Nasdaq. Par contre, la portion obligataire a fait son travail. Donc, les taux d'intérêt ont baissé durant cette période-là. Il y a eu une espèce de refuge. Les capitaux se sont déplacés vers les obligations. Ça l'a fait baisser les taux d'intérêt, donc augmenter la valeur des obligations. Alors, pendant que la bourse perdait 3 à 5 %le marché des obligataires a gagné 1 %. Donc, c'est quand même un écart là, qui est intéressant. D'où la pertinence. Là. Des fois, même un investisseur de croissance, qu'on garde un 10, 15, 20 % en obligation, c'est un peu pour ça. Si ça continue de s'envenimer, bien, cette portion-là va continuer de maintenir sa valeur. Puis peut-être ça deviendra des munitions pour profiter des aubaines.
Donc, on n'est pas dans la panique, c'est un recul de marché qui pourrait être normal. Il pourrait avoir d'autres volatilités.
Ça pourrait venir. Il y a un indicateur économique économique important aussi qui a été déclenché, là, le facteur de RAM, là, qui, en tout cas, qui est une ancienne gouverneure de la Banque américaine, de la Réserve fédérale, où quand le taux de chômage augmente de 0,5% du creux, ben, 100% du temps, ça a engendré une récession. Même elle-même dit, ben là, attendez, là, tu sais, c'est pas parce que ça a toujours été le cas que ça va toujours continuer d'être le cas. Il faut comprendre aussi que le taux de chômage augmente, entre autres, par une émigration plus élevée que les nouvelles créations d'emplois. Donc, le chômage n'est pas en train d'augmenter parce que les gens perdent leur emploi. Le chômage augmente parce que plus de gens cherchent un emploi. Et puis, on rappelle que la croissance intérieure aux États-Unis, le produit intérieur brut, est en hausse de 2,8%. C'est encore les mêmes estimés. Donc, on est loin d'une décroissance. Là, une récession, là, c'est une baisse du produit intérieur
brut. Donc, la peur d'une récession qui a été véhiculée peut-être par le marché sont exagérées.
Sont prématurées. Ouais. On vous garantit qu'il y aura une récession à un moment donné, mais selon MRB, puis selon les indicateurs, ce ne serait pas imminent. Donc, pour l'instant, on demeure investi.
Autre fait intéressant sur le Japon que j'ai lu ce matin dans le Globe and Mail, que j'ai trouvé intéressant de partager, c'est qu'ils veulent changer leur économie d'une économie qui est dite d'épargnants. Donc, c'est une population vieillissante. L'économie épargne beaucoup, mais n'investit pas autant. Et ça crée beaucoup de pression sur leur fonds de pension national. Donc, ils veulent que les gens commencent à investir. Ils ont établi un genre de compte comme notre CELI pour inciter les gens à investir. Donc, il y a tout cet effet-là hyper intéressant du Japon et de la démographie japonaise. Donc, vous pouvez aller voir l'article dans le Global Mail si ça vous intéresse. Bien, merci beaucoup, Martin. Je pense que le sujet d'aujourd'hui est hyper pertinent. Nous avons discuté la semaine passée de notre expérience comme investisseur, comment notre profil d'investisseur a changé à travers le temps. Cette semaine, nous voulons approfondir sur le sujet en discutant comment nous faisons comme conseiller pour établir le profil d'investisseur de chacun de nos clients afin de bâtir un portefeuille en ligne avec la tolérance au risque de nos clients. Donc, dans des périodes volatiles comme ça, c'est vraiment, ça nous donne une lumière sur comment a évolué peut-être le profil de risque de nos clients. Donc, aujourd'hui, on va le démystifier un peu. Est-ce que tu peux nous dire sommairement comment est-ce que le processus d'établir le profil de risque d'un client a évolué à travers le temps?
Il y a toujours eu l'importance de définir le profil d'investisseur puis la tolérance au risque du client. Là, dès moi, je suis rentré chez VMD en 2001. On faisait ça, là, ça faisait partie de notre obligation fiduciaire là, de valider la tolérance au risque, mais c'était moins structuré, c'était moins rigoureux. Puis au fil des années, les autorités réglementaires là, ont développé ce qu'on appelle dans notre jargon le KYC, Know Your Client, donc connaître son client. Donc c'est très important, et donc la quantité d'informations qu'on doit recueillir pour démontrer non seulement pour connaître nos clients, mais pour démontrer qu'on connaît nos clients. Donc, c'est pas juste entre le client puis nous, mais c'est entre le client, nous et les autorités réglementaires et la conformité qui doivent être en mesure de valider, de vérifier est-ce que c'est vrai qu'on les connaît. Puis la façon qu'on le fait, donc, c'est de plus documenter et de recueillir plus d'informations. Donc, depuis, dans le passé, c'est sûr que c'est toujours autour de la conversation. Il n'y a rien qui va remplacer une bonne conversation franche entre le conseiller et son client. Maintenant, on a ajouté là, un questionnaire. Là, les autorités réglementaires ont rendu obligatoire un questionnaire de profil d'investisseur. C'est aussi une des choses qui est différente. Dans le passé, c'était vraiment un niveau de risque par compte. Mm-hmm. On disait, ben, tes comptes comptants, c'est ça le profil. Tes comptes REER, c'est ça le profil. Puis des fois, c'était pas le même profil. Alors qu'en réalité, on est un seul et même investisseur. Puis si on veut avoir une meilleure performance nette des frais, nette des impôts, ben on doit regarder l'ensemble et non compte par compte. Donc ça, c'est un changement là, qui a eu lieu il y a quelques temps, de dire, ben là, j'ai une seule répartition d'actifs pour l'ensemble des placements du client et non compte par compte. Donc c'est vraiment... L'exercice a toujours été le même, c'est peut-être dans la structure et puis dans l'obligation de démontrer qu'on a fait l'exercice avec le client qui a peut-être plus évolué.
Puis on est toujours en train de démontrer qu'on connaît notre client, de parler notes qu'on prend. Donc, vous le savez peut-être pas, mais on prend des notes quand même assez claires dans nos systèmes. Ouais. Pour dire, mais on a discuté de tel placement avec le client. Il faut dire que le profil d'investisseur, c'est quelque chose qui est intégré maintenant à notre document d'ouverture de compte. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre à jour formellement aux 3 ans. Exactement. En réalité, on est toujours en train d'évaluer votre tolérance au risque de par nos conversations. Un des premiers buts du questionnaire qu'on a maintenant dans le formulaire d'ouverture de compte est de mieux connaître la situation personnelle et financière de chaque investisseur. Donc, ça peut vous paraître un peu comme « Pourquoi tu veux savoir ça? » mais c'est vraiment pour démontrer qu'on vous connaît. Ouais. Quelles questions nous aident à accomplir ce but et quel est l'effet sur la stratégie d'investissement?
Bien, l'objectif, c'est de déterminer est-ce que j'ai la capacité financière de prendre des risques, est-ce que j'ai la capacité émotionnelle de prendre des risques, puis en ultimement, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là? Elle va servir à quoi? Et tout ça va éventuellement mener à une répartition d'actifs. Donc, c'est sûr que je dois savoir, bien, avez-vous des revenus? Est-ce que vous travaillez? Êtes-vous retraité? Avez-vous un fonds de pension? Avez-vous, tu sais, si on perd l'argent qui est investi, avez-vous d'autres source pour vivre ou vous êtes dans la rue sur un banc de parc. Là. Donc, tout ce genre d'informations-là, le bilan, beaucoup plus détaillé maintenant. Dans le passé, on se contentait vraiment plus des placements. Là, maintenant, on va vraiment avoir la valeur de votre maison. Avez-vous une hypothèque? Avez-vous un chalet? Avez-vous... Donc, beaucoup plus d'informations.
Puis, on veut savoir quel placement vous détenez.
Plus en détail. Oui. Donc, si vous avez... c'est bien de dire, OK, ben chez Valeurs Mobilières, je vais vous confier 500 000 $ puis je vais être investi à la bourse. Ouais, mais qu'est-ce que tu as d'autre ailleurs? T'as-tu un paquet de revenus fixes ailleurs, des placements garantis ailleurs? Puis là, ben ça me permet d'avoir un meilleur portrait. Puis finalement, peut-être vous êtes un investisseur équilibré, mais vous faites vos actions chez nous, puis votre revenu fixe à Placement Québec, mettons. Donc, c'est dans cette optique-là où ça peut être tout à fait approprié d'être 100% en action chez nous, même si on est un investisseur équilibré, si on est capable de démontrer que votre revenu fixe est fait ailleurs. Donc, ça, c'est un bon exemple. C'est quoi votre expérience au niveau des pertes? Donc, dans le passé, avez-vous déjà subi des revers de marché? Quelle a été votre réaction? Avez-vous tout vendu? Avez-vous vendu un peu? Avez-vous paniqué bien raide? Donc, tu sais, tout ça, ça fait que ça va influencer comment on peut structurer le portefeuille, mais ça doit être donc documenté. Quelles sont vos connaissances aussi? Si vous êtes un tout nouvel investisseur versus quelqu'un que ça fait 25 ans qui investit avec une certaine passion puis des connaissances plus élevées. T'sais, on a des clients qui en connaissent presque autant que nous, là, pour pas dire plus que nous.
Puis souvent, on trouve que les clients ont eu beaucoup d'expérience avec le temps et ils ont plus de connaissances qu'ils pensent. Donc, ils vont nous dire « Non, j'ai pas de connaissances, je connais rien. » Puis c'est comme... Vous êtes plus connaissant que vous pensez.
C'est pas parce qu'on connaît pas le ratio cours-bénéfice de la compagnie Microsoft, qu'on connaît pas les investissements. On est capable, le gros bon sens est très important en investissement, qu'on est capable de bien comprendre quand même.
Oui. Une des informations que nous cherchons toujours à comprendre à travers les questionnaires, et ça à travers nos conversations aussi, quand les gens déposent de l'argent, on demande après l'horizon de temps. Donc, quel est l'impact de cette information sur notre stratégie d'investissement?
Donc, ça revient un peu à dire ben, à quoi va servir cet argent-là, puis est-ce que vous prévoyez d'avoir besoin d'une portion ou une portion importante de cet argent-là à court, moyen, long terme. Puis je pense que ce qu'on vient de vivre cette semaine, c'est un bon exemple. Donc, si quelqu'un devait faire sa mise de fonds pour sa maison lundi, puis qu'il ne nous en a jamais parlé, puis là, il nous appelle, ben il faut que je vende mon portefeuille parce que je dois mettre une mise de fonds, ben là, tu as 10% de moins de mise de fonds, mettons, tu sais, c'est pas tant que ça, la baisse, là, mais tu sais, on veut pas vendre à perte. Puis l'objectif de déterminer l'horizon, ben c'est de faire l'appariement entre les produits de placement puis l'utilisation de l'argent ultimement. Donc, si c'est pour la retraite, puis la retraite, tu sais, des fois, les clients disent « Ouais, mais moi, je prends ma retraite dans 2 ans, donc je devrais être super prudent. » ça se peut que vous allez vivre 30 ans à la retraite. Donc, l'horizon demeure très long, même si la retraite commence. Là, on continue d'investir pendant fort longtemps, mais une mise de fonds pour une maison, les régimes d'épargne-études. Donc, on peut avoir un portefeuille rayé, par exemple, pour les enfants. Tu sais, très agressif quand ils sont 2-3 ans, là, mais il faut penser qu'à mesure qu'ils avancent dans l'école secondaire, ben il faut peut-être amener ça un petit peu plus prudent. Peut-être s'assurer que les gens en période de décaissement, ben peut-être garder un an ou deux de placement plus prudent, de sorte que...
Puis t'amènes un bon point, parce que on peut avoir un portefeuille dans l'ensemble qui est à plus long terme, puis isoler un montant pour le plus court
terme. Pour les besoins plus court terme, de retraite cette année, de la mise de fonds, de remplacer l'auto. On a des clients qui vont nous dire « Ah, il va falloir que je répare la toiture de la maison l'année prochaine. » Ah, ben là, tu sais, j'ai un 30-40 000 à sortir. Là, est-ce que je le sors tout de suite, plus tard? J'ai-tu dans le portefeuille quelque chose que je suis sûr qu'il ne va pas perdre de valeur entre aujourd'hui puis le moment où j'ai besoin de sortir le 40 000? Donc, très important de partager avec nous les besoins, tu sais, quand c'est plusieurs milliers de dollars, de le partager avec nous.
Oui, mais c'est pour ça qu'on fait des suivis réguliers avec nos clients. C'est pour savoir si leur tolérance au risque a changé, pour savoir s'il y a des changements dans leurs circonstances personnelles, qu'on doit faire des changements dans le portefeuille, puis avoir un peu d'argent à plus court terme. Quelle est l'importance des connaissances en matière de placement?
Bien, c'est sûr qu'un investisseur a connaissance et expérience, là, mais connaissance, là, on va vraiment parler de façon plus technique, là, des différentes stratégies. Puis, mon expérience après 22 ans, 23 ans chez VMD, si les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi on le fait, ils ne seront pas tolérants au risque quand l'inévitable volatilité va arriver. L'investissement, on est dans l'univers des probabilités. On ne sait pas ce qui va arriver cette semaine, l'année prochaine. Puis cette semaine, c'est un bon exemple. On n'avait aucune idée, aucune façon de pouvoir savoir que le marché était pour planter. Donc, si j'ai utilisé une stratégie très complexe d'effet de levier, d'option, puis tu sais, puis le client, il ne sait pas trop pourquoi, puis comment ça marche, puis là, paf, on se fait frapper par la volatilité inévitable. Ben là, écoute, moi, je pensais pas que j'étais pour perdre 30 % de mon argent, tu sais. Alors que, donc, c'est important de comprendre, puis nous, ben, de pas amener les investisseurs trop brutalement dans des zones d'inconfort, dans des zones où ils connaissent pas ce qu'on est en train de faire. Typiquement, on est assez ennuyant comme investisseur. On essaie de garder ça simple. On connaît un autre bon investisseur qui essaie de garder ça assez simple, là, M. Buffett aux États-Unis. Ça fait 80 ans qu'il investit, puis il a jamais fait rien de compliqué dans sa vie. Puis ça l'a quand même assez bien servi. On essaie de pas de limiter, là, mais de suivre un petit peu cette philosophie-là.
Puis on va parler bientôt des catégories de risques dans notre formulaire. Puis il y a une catégorie du bas, c'est la spéculation.
Ouais.
On en fait...
peu ou pas, là.
Pas, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, finalement, ceci étant dit, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les différents types d'investisseurs et quel est le portefeuille qui serait mis en place pour ces investisseurs avec les objectifs de placement?
Oui, donc tout simplement, là, donc on peut partir de l'investisseur, là, on parle de quelqu'un qui a une bonne situation financière, un bon emploi, qui est à quelques années de la retraite, qui a une bonne connaissance en placement puis qui veut vraiment maximiser le rendement après inflation. Bien, on parle d'un investisseur de croissance. Bien, qu'est-ce qui serait approprié pour un investisseur de croissance qui n'a pas de besoin à court terme, là, de liquidité? Bien, ce serait probablement même d'être presque 100 % en action. Là. Ce serait tout à fait approprié d'être 100 % en action. On peut avoir un investisseur qui est très croissance, mais qui a un projet dans 2-3 ans. Bien, là, on va avoir un petit peu de revenus fixes pour les besoins de ce projet-là. On peut avoir tout simplement un investisseur qui a les mêmes profils, bon emploi, horizon long, puis tout ça, mais juste plus frileux, tu sais, juste dort pas bien quand ça baisse. Donc, c'est pas parce qu'on a la capacité de tolérer le risque qu'on a l'aptitude de le tolérer, et les deux sont importants. Donc, quelqu'un qui a moins de tolérance au risque, même s'il a pas de raison autre que psychologique, on se doit de respecter la tolérance au risque moindre, puis peut-être d'aller vers un portefeuille équilibré. Un portefeuille équilibré, typiquement, 60 % en actions, 40 % en revenus fixes ou en obligations. Puis ensuite, ben, plus on est prudent, ben là, essentiellement, c'est la portion action versus obligation qui va varier. Plus on a d'obligations ou de certificats de placement garanti, plus on est prudent. Jusqu'à un investisseur pourrait pour X raisons, dire, ben moi, je veux 100% garantie, je ne veux jamais que ça baisse. On appelle ça généralement un épargnant. Puis c'est correct, là. C'est pas une faute d'être un épargnant, c'est un état de fait. On a des produits pour ça. On va parler de certificats de placement garantis, d'obligations gouvernementales à relativement court terme, puis on va s'assurer que le portefeuille là, soit complètement prudent en tout temps. Évidemment, à long terme, ben, plus on est prudent, généralement, plus le rendement est faible sur un cycle complet d'investissement. Donc, il faut accepter ça. Il y en a qui sont tout à fait à l'aise avec ça et c'est correct. Dans notre formulaire d'ouverture de compte, donc souvent, on arrête puis on dit ça, c'est la portion la plus importante du formulaire. Les quatre cases de risque. Donc, case 1, titre à revenu à faible risque. Donc, c'est vraiment la portion qui va être composée, qui va viser la préservation du capital. La deuxième boîte, qui est le risque, titre à revenu à risque modéré. Donc là, ça va être des obligations, par exemple des obligations bancaires, des actions privilégiées. On va ensuite aller vers la case 3, qui est les titres de revenu à risque plus élevé et les titres de croissance. Donc ça, généralement, c'est les fonds d'actions ou les actions en bourse, les actions de qualité. T'sais, un Banque Royale, c'est une alimentation couche-tard, ce genre d'entreprise-là.
Qui peut avoir certains types de revenus fixes qui est inclus dans ce catégorie.
Exact. Donc, titres à revenus fixes avec des faibles codes de crédit, ouais. Donc qui peuvent être considérés à risque plus élevé. Mais généralement, la case 3, là, principalement, là, on pense aux actions cotées en bourse. La case 4, titres de risque élevé à très élevé. Donc, on parle avant, c'était spéculation. Là, ils ont un peu changé l'appellation de la boîte, mais donc, c'est les stratégies à forte volatilité, des risques de crédit élevés. Donc là, on peut penser des petites entreprises qui se transigent là, à 50 cents, 1 $, crypto, des titres de cannabis, des options, des produits dérivés, de l'effet de levier, ça rentre un petit peu là-dedans.
Il peut y avoir des fois où les titres passent de la case 3 à la case 4 pour X raisons.
Ouais, on a déjà vu dans le passé là, par exemple des obligations de qualité, puis l'entreprise atteint des difficultés financières, puis la cote de crédit de l'entreprise baisse jusqu'à ce que la cote d'entreprise soit en défaut, ben elle va passer de la case 2 à la case 3 à la case 4. Généralement aussi, la taille de la position, elle a baissé en conséquence. Là, quand ça se met à aller mal, le prix baisse. Donc, il faut, nous, si un titre... Donc, des fois, c'est pas que vos objectifs changent, mais la cote de risque du titre change. On n'a pas toujours le contrôle sur ça. Si un titre devait changer de cote de risque puis tomber dans une catégorie qui n'est pas permise selon vos objectifs, on doit réagir. Donc, dans le formulaire d'ouverture de compte, on va venir un peu baliser le risque maximal du portefeuille. On peut être légèrement plus prudent que ça. Il n'y a pas trop de restrictions, mais on pourrait pas aller plus risqué que ce qu'on indique sur le formulaire de compte.
Donc, il y a un autre concept dans notre industrie qu'on pourra explorer peut-être la semaine prochaine, c'est « Know your product », donc ouais. Bien connaître notre produit. Donc ça se marie aussi avec le formulaire et le profil d'investisseur et ça devient quelque chose de plus en plus ouais. Important dans notre industrie de bien connaître les produits qu'on vous présente. Donc, on y reviendra. Merci beaucoup, Martin. Beaucoup d'informations ce matin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado. Si vous êtes inquiet, appelez-nous, on est disponible, on veut discuter, on veut vous entendre. Si on ne vous appelle pas avant, appelez-nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.